Alors le sujet que vous avez choisi est immense, sans doute ambitieux, et je ne sens peut-être pas tout à fait la carrure nécessaire pour le traiter dans tous ses aspects, donc j'essaierai de vous livrer quelques impressions qui apparaîtront peut-être simplistes à beaucoup d'entre vous. Je n'essaierai pas d'abord de définir ce qu'est la démocratie. De grands auteurs, et depuis fort longtemps, s'y sont essayés. Vous connaissez tous la typologie traditionnelle, le gouvernement d'un seul, la monarchie, le gouvernement de quelques-uns, l'oligarchie ou l'aristocratie, et puis le gouvernement du peuple, la démocratie. Vous me demandez de parler de la démocratie de demain, un mot quand même sur la démocratie d'hier. C'est une idée qui a fait son chemin, au point de devenir aujourd'hui une sorte d'idée dominante, ou de concept dominant, récupéré par tous. Il y a des démocraties islamistes, il y a des démocraties populaires, et ainsi de suite. Au départ, ce fut la démocratie directe. Je me suis ressourcé un peu cet été sur les terres grecques, où j'ai beaucoup de souvenirs très forts, et je voyais la colline de l'Apnix où ce qu'on appelait le peuple athénien se réunissait pour délibérer et gouverner. Démocratie censitaire, déjà du temps d'Athènes, ce n'était pas vraiment la démocratie de tous, c'était la démocratie des citoyens, et il y avait beaucoup de non-citoyens, démocratie censitaire aussi. Tout au long des siècles, y compris dans la patrie de la démocratie, l'Angleterre, avec l'émergence de l'acte démocratique fondamental, en tout cas dans l'acception parlementaire, qui est le consentement à l'impôt. Et puis, disons dans le courant du XIXe siècle, l'émergence du modèle qui nous gouverne encore, qui est la démocratie représentative. Tous ne pouvant pas directement exercer le pouvoir, remettent à quelques-uns qu'ils choisissent dans la transparence et au terme d'élections libres le pouvoir de les représenter. Ce modèle est aujourd'hui effectivement dominant. En tout cas, nous avons, nous, Français, je dirais même Européens ou Occidentaux, à supposer que ce mot d'occidental ait encore un sens, peut-être la vanité de considérer que c'est une valeur universelle que nous pouvons exporter partout sur la planète. Alors, comme beaucoup d'idées qui ont triomphé, on peut se demander si aujourd'hui elle n'est pas en crise et si elle n'est pas remise en cause pour demain. C'est cela, j'imagine, qui vous intéresse dans la réflexion que peut avoir conduite un homme politique. C'est vrai que notre système démocratique, notre démocratie représentative et parlementaire a aujourd'hui toute une série de défis à relever. J'évacuerai assez rapidement, parce qu'on ne peut pas dire, je pense, qu'il concerne directement la situation française, le débat sur liberté réelle et liberté formelle, démocratie réelle et démocratie formelle, encore qu'il soit toujours d'actualité. Quand le président de la République française dit en Tunisie, la première des libertés, c'est de manger à sa faim, voilà, on peut en penser beaucoup de choses, mais c'est ce débat assez ancien. Porté par des gens qui ne sont pas forcément aussi sympathiques à mes yeux que le président de la République française sur le caractère réel ou formel d'un certain nombre de libertés démocratiques. Mais ce n'est pas vraiment ce défi-là que la démocratie a à relever chez nous. Premier défi que nous avons à relever en France, c'est un certain désintérêt pour la démocratie, avec des phénomènes que vous connaissez, l'abstentionnisme. Comment la démocratie représentative peut-elle prospérer si son ressort essentiel, qui est l'expression des électrices et des électeurs au moment du vote, ne fonctionne pas? Or, nous sommes confrontés, élection après élection, à la montée de l'abstentionnisme. On l'a vu aux dernières élections législatives, aux dernières élections présidentielles, même aux élections municipales qui sont réputées intéresser les gens, puisqu'elles conditionnent en grande partie leur vie quotidienne. On arrive parfois à des taux d'abstention de 50%. Je n'aurais pas, comment dire, l'indélicatesse ou l'inélégance d'évoquer le taux d'abstention dans les élections universitaires, mais enfin, voilà. Quasi nul. Non, je parle dans les élections au conseil d'université. Le taux de participation est quasi nul, vous voulez dire. Oui, c'est ça, oui. Le taux d'abstention est très fort. Voilà. Et donc, ça pose aussi un problème. Est-ce que là, le mécanisme fondamental de la démocratie représentative n'est pas en cause? Et pourquoi? Il faut s'interroger sur le pourquoi de cette montée de l'abstentionnisme. Autre danger qui menace cette démocratie représentative, le désintérêt des uns, la radicalisation des autres. Et je n'arrive pas à me satisfaire de voir que la démocratie française du XXIe siècle aboutit à faire qu'au moment des élections, alors parmi ceux qui votent cette fois-ci, des sensibilités extrêmes, qui se fondent dans le moule de la démocratie représentative, puisqu'on appelle à voter, mais qui fondamentalement et intellectuellement la contestent, je veux parler des extrêmes, à droite comme à gauche, représentent aujourd'hui le quart ou le tiers de l'électorat en France. 15, 16, 17% à l'extrême droite, 10% à l'extrême gauche. Plus fondamentalement, dirais-je, le défi auquel est confrontée notre démocratie, c'est une véritable crise de la fonction d'autorité. De la fonction d'autorité politique, bien sûr, mais plus largement de la fonction d'autorité en général. Et je relis ce phénomène, pour ma part, à quelque chose alors qui est très encourageant et très positif, et auquel vous concourez quotidiennement, messieurs les professeurs, messieurs les étudiants, qui est l'élévation générale du niveau de formation des Français. Et cette élévation du niveau de formation fait que les attentes, les exigences, la relation du gouverné au gouvernant ont radicalement changé depuis 30, 40 ou 50 ans, et même dans un laps de temps relativement bref. Je disais que c'est partout pareil, c'est vrai à l'école. Aujourd'hui, le nombre de témoignages, je déjeunais aujourd'hui avec les proviseurs des lycées et collèges de Bordeaux, et nous avons évoqué ce problème, la relation entre les parents d'élèves et les enseignants n'est plus ce qu'elle était il y a 30 ans. S'il y a 30 ou 40 ans, j'avais contesté dans mon milieu familial la façon dont mes maîtres me faisaient l'école, je sais quelle aurait été la réponse. Ferme ta gueule, fais tes devoirs, etc. Aujourd'hui, les parents vont dans les conseils de classe expliquer aux enseignants comment il faut faire la classe et quelle est la bonne pédagogie, tout ça parce que beaucoup d'entre eux ont des diplômes équivalents à ceux des enseignants qui enseignent leurs enfants. Même problème, je parle sous votre contrôle, monsieur le président, souvent dans le milieu médical. Aujourd'hui, la relation entre le patient et le médecin n'est plus ce qu'elle était il y a 30 ou 40 ans. Et ça traumatise parfois le mandarin ou le patron qui est face à un interlocuteur qui, sur Internet, a déjà fait son diagnostic ou sa thérapeutique et qui, discute même à ce niveau-là les choses. Évidemment, en politique, où la relation d'autorité entre les gouvernants et les gouvernés a tout à fait fondamentalement changé. À cela s'ajoute en politique, alors, quelques éléments supplémentaires. D'abord, l'intervention du pouvoir médiatique, la presse. Toujours dangereux de brancher un homme politique sur ce sujet, parce que, notre paranoïa naturelle qui fait que nous nous sentons persécutés par la presse se livre libre cours. Je respecte profondément la presse, qui est un élément essentiel du jeu de la démocratie, bien entendu. Cela dit, ne pratiquons pas non plus l'admiration et l'adoration sans partage. Il y a des problèmes dans l'expression du pouvoir médiatique. Il y a des problèmes de déontologie. Aujourd'hui, on écrit des choses qui sont fausses, sans sanction. Je pourrais en donner quelques exemples ponctuels, précis ou parfois plus importants que cela. Il y a aussi dans le phénomène médiatique un autre aspect qui ne met pas en cause la déontologie, mais le système lui-même, qui est cette immédiateté dans laquelle le pouvoir médiatique nous enferme. Moi, ça me frappe tous les matins quand j'écoute la radio. Quelle est la bulle médiatique qui va crever aujourd'hui? Et alors, on vous montre des choses qui prennent une connotation absolument cataclysmique, et on se rend compte que deux jours après, c'est terminé. Donc cette espèce de pression médiatique permanente coupe toute espèce de distance, de recul par rapport à l'événement et parfois complique un peu l'exercice du pouvoir parce que nous sommes nous-mêmes victimes de cette espèce d'immédiateté. Pouvoir médiatique, pouvoir associatif, qui met en cause aussi l'autorité politique. On voit à tous les niveaux et sous toutes les formes, au niveau d'une ville, au niveau d'un État, au niveau de la planète, monter ces associations qu'on appelle ONG lorsque on passe au niveau planétaire, qui là encore comme pour la presse, ont un rôle extrêmement important, extrêmement essentiel, parce qu'elles expriment un point de vue qui doit être pris en considération, mais qui mérite aussi une certaine réflexion, en particulier sur la légitimité. Est-ce que ce pouvoir associatif a toujours une représentativité ou une légitimité démocratique qui explique ou justifie la part extrêmement importante qui lui est donnée? Je pourrais illustrer ça par des exemples très concrets, y compris concernant l'activité ici de notre agglomération. Et puis prenons cet exemple. Vous avez vu dans la presse hier ou avant-hier tout un débat sur le débat précisément relatif au grand contournement de Bordeaux. Alors on nomme une commission, qui est la commission du grand débat, qui est composée de quatre personnalités éminentes, qui engagent une négociation, une discussion, c'est très bien, c'est tout à fait nécessaire, d'ailleurs c'est prévu par la loi. Et puis tout d'un coup ça se bloque parce que le gouvernement a eu l'audace d'afficher sa propre préférence ou sa propre orientation qui consiste à réaliser ce grand contournement. Et la commission du débat dit « Ah, mais on me méprise, on m'humilie parce que je n'ai pas fini mon travail et donc le gouvernement n'a pas le droit de... » Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Pourquoi dénier au gouvernement la possibilité de faire un choix et ensuite d'éclairer ce choix par le débat organisé par la dite commission? Les deux peuvent coexister. Et là encore, on voit bien comment les équilibres démocratiques sont difficiles à déterminer. L'avis de cette commission, qui aura consulté, quand elle aura terminé son travail, toute une série de personnalités, d'institutions, d'associations, est très important. Mais en face, vous avez quoi? Vous avez la délibération unanime du Conseil régional d'Aquitaine, la délibération unanime du Conseil général de Gironde, la délibération pas tout à fait unanime, mais majoritaire, du Conseil de communauté urbaine, prenant position pour... Ça fait du monde, ça. C'est du monde qui exprime une légitimité démocratique. Ce sont des gens qui ont été élus. Alors, comment faire vivre tout ça ensemble? Je crois que ça pose un problème sur le fonctionnement de notre démocratie, sans réponse claire, ni évidente, ni simpliste. Je ne veux pas dire par là qu'il faut interrompre le débat, je vais y revenir, au contraire. Mais il faut trouver un point d'équilibre entre les deux. Dernier défi à cet exercice de l'autorité politique et de la responsabilité en démocratie représentative, c'est le sentiment d'impuissance. C'est peut-être ce qui explique d'ailleurs le premier phénomène que j'évoquais, qui est celui de l'abstentionnisme, le sentiment d'impuissance que les électrices et les électeurs ont vis-à-vis de leurs responsables politiques. Est-ce qu'ils y peuvent encore quelque chose? Est-ce que finalement la décision ne se prend pas ailleurs? Est-ce qu'elle se prend toujours à Paris, dans les ministères, ou à Matignon, ou à l'Élysée? Est-ce qu'elle se prend pas ailleurs et ailleurs où? On ne sait pas. Et c'est là, évidemment, qu'il faut évoquer le thème de la mondialisation ou cette connotation très impersonnelle et très bureaucratique de l'Europe. Est-ce que ça n'est pas des mécanismes de marché? Alors, soit complètement aveugle dans l'esprit des uns, soit une sorte de complot capitaliste dans l'esprit des autres qui place le pouvoir politique, en réalité, face à des décisions qui lui échappent. Et c'est tout le phénomène de l'anti-mondialisation ou de l'altermondialisme que vous connaissez. Même processus vis-à-vis de l'Europe. Est-ce que la décision qui nous vient de Bruxelles, de la Commission ou d'ailleurs, ne court-circuite pas toutes les procédures démocratiques? Et est-ce que dans ces conditions, le Parlement français, qui est l'expression de la représentativité démocratique au sein de la démocratie française, n'est pas un Parlement croupion? Nous passons notre temps, c'est vrai, à... adapter dans le droit français des directives communautaires, et aujourd'hui on peut considérer qu'une proportion majoritaire vraisemblablement du droit effectivement applicable en France est fabriquée à l'extérieur du Parlement français qui a théoriquement la légitimité pour faire la loi. Voilà les défis auxquels nous sommes confrontés. Alors, que faire face à cela? Est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain et considérer que la démocratie est un système dépassé, qu'il faut lui substituer autre chose? Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé autre chose à substituer à la démocratie. Vous connaissez le mot fameux de Malraux, la démocratie ne vaut rien, mais rien ne vaut la démocratie. Je ne sais pas si c'est à propos de la démocratie qu'il l'a dit d'ailleurs, mais enfin on lui fait dire, et il aurait pu le dire. Je crois que fondamentalement, le principe démocratique qui consiste à donner à l'ensemble des citoyens le pouvoir de s'exprimer pour participer à la décision est incontournable. Simplement, il nous faut inventer, après la démocratie directe, après la démocratie censitaire, après la démocratie représentative, une nouvelle forme de démocratie que j'appellerais une démocratie participative. Démocratie participative, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'avant le temps de la décision, qui incombe, qui doit continuer à incomber à mon esprit, dans l'esprit, à ceux qui ont reçu la légitimité démocratique par l'élection de prendre ces décisions, il y a un temps qui est de plus en plus important, qui est de plus en plus complexe, mais qui est de plus en plus nécessaire pour la concertation, pour le dialogue, pour le débat. Et c'est ce que nous essayons de pratiquer à tous les niveaux. On le fait dans le cadre d'une ville. Aujourd'hui, on s'imagine que le maire de Bordeaux a un clavier devant lui, là, et puis qu'il appuie sur les touches en disant « j'ai décidé que ». Non, ça se passe pas du tout comme ça. D'abord, avant de prendre une décision, il faut essayer de la tester, de l'expliquer, de la confronter. On a mis en place en 1995, ici dans notre ville, des conseils de quartier, il y en a 13, et on passe des heures à discuter dans les quartiers avec ce qui concerne le quartier, qui peuvent être des problèmes d'ailleurs de voisinage immédiat, mais aussi des problèmes concernant l'évolution de la ville en général. Et c'est pareil à tous les niveaux. J'évoquais tout à l'heure la commission du débat public s'agissant des grands équipements nationaux. C'est vrai au niveau national. Vous entendez les discours de nos dirigeants en permanence dire qu'avant de décider, ils vont lancer une période de concertation. C'est le cas aujourd'hui dans l'éducation nationale, avec le grand débat qui a été qui est pilotée par la commission Tello. C'est vrai aussi au niveau international, où les Nations Unies, maintenant, ont pris l'habitude de réunir les ONG en parallèle avec les représentants des États. Et dans les sommets des Nations Unies, il y a à la fois l'expression de ce pouvoir associatif et de ce rôle de concertation ou de discussion en parallèle avec le pouvoir politique et souverain des gouvernements et des États. Donc je crois qu'il faut s'habituer à cela et les développer. Alors ça présente des avantages et des inconvénients. Ça présente un premier inconvénient, c'est que cela retarde considérablement le processus de décision. Quand on n'est pas obligé de passer des heures de discussion préalable avec des syndicats, oui, j'ai parlé beaucoup du pouvoir associatif, mais j'y ai intégré le pouvoir syndical, bien sûr, avec des syndicats, avec des associations, on a parfois le sentiment que c'est une perte de temps considérable. C'est parfois une dilution du pouvoir de décision, c'est parfois un blocage, parce qu'il y a des fois où le processus s'encalmine. Mais en même temps, et c'est ça, je crois, le grand avantage, lorsqu'on arrive à dégager, sinon un consensus, du moins une expression majoritaire. Ensuite, ça donne à la décision une assise tout à fait différente et ça lui permet d'être accepté et appliqué. Il n'en reste pas moins qu'à un moment ou à un autre, il faut que ce processus de démocratie représentative et de concertation aboutisse à une décision. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise, ben voilà, on s'arrête là, c'est ça et c'est pas autrement. Un jour, dans un conseil de quartier, après 2 ou 3 heures de discussion, c'était à l'époque sur les ponts de Bordeaux. C'est un sujet qui a fait couler énormément de salive. L'un des participants prend la parole et me dit « Monsieur le maire, écoutez, bon, ça c'est bien gentil, mais on vous a élu pour décider. Alors maintenant, vous nous avez écoutés, vous voyez bien qu'on n'est pas d'accord. Hein, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Alors, décidez. Et puis si on n'est pas content, dans 5 ans, on vous virera. » Dans 6 ans. Et je crois que c'est ça aussi l'esprit de la démocratie représentative, participation, concertation, dialogue, mais décision. Et à un moment donné, celui qui décide, bah, il est soumis à la sanction du suffrage universel qui n'a pas trouvé de substitution, je le répète, et qui, à mon avis, n'en trouvera pas. Une dernière remarque pour respecter mon engagement de brièveté. Tout ceci ne peut fonctionner qu'à une condition. Et là, je vais retrouver mon maître en politique, qui est notre cher Montesquieu. Tout ceci ne peut fonctionner que si nous retrouvons entre nous, dans l'ensemble national et dans l'ensemble européen, peut-être même au-delà, soyons pas trop ambitieux, une vertu fondamentale, qui n'est pas une vertu de facilité, mais qui est au contraire une vertu d'exigence, qui est la vertu de modération. Montesquieu explique que la démocratie et la liberté, ça repose sur l'équilibre des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire n'est pas dans les mains de ceux qui exercent le pouvoir exécutif, et ceux qui exercent le pouvoir exécutif n'ont pas le pouvoir de faire la loi. Bon, c'est le principe fondamental de la séparation des pouvoirs. Mais il explique qu'au-delà de cette séparation des pouvoirs, qui est un peu le fondement même de tout régime démocratique et de liberté, ce qui est nécessaire, c'est le respect mutuel. C'est l'esprit de modération dans la façon d'envisager la vie en commun. Il explique que, contrairement à ce qu'on dit parfois, l'esprit de modération, c'est pas le ventre mou. Ce n'est pas le marais, ce n'est pas la solution de plus grande pente. Au contraire, ce qu'il a de plus facile, dit Montesquieu, c'est l'exagération. C'est l'extrémisme, c'est le fanatisme, c'est la caricature. Et nous en sommes servis tous les jours. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de construire une vision équilibrée des choses, en pesant les arguments dans un sens, dans un autre, en essayant de dégager, non pas une voie moyenne, mais une voie d'équilibre et un esprit de modération. Mais je crois que c'est ça qui est en cause dans cette démocratie participative à la française ou à l'européenne que nous avons inventée, c'est d'y mettre aussi une bonne dose de lutte contre les fanatismes, contre les extrémismes, contre les poujadismes de tous bords, pour revenir à une vision plus équilibrée, faite de modération et de respect mutuel. Voilà, monsieur le professeur, ce que je voulais dire pour lancer le débat. Et je me prête maintenant volontiers à vos questions. À court terme, oui, à long terme, non. À court terme, oui. Bien évident que les régimes policiers, les régimes totalitaires, de façon générale, arrivent à prendre des décisions de façon beaucoup plus rapide que les démocraties ne peuvent le faire. Par ailleurs, les démocraties ont la fâcheuse habitude, mais c'est consubstantiel à l'esprit même démocratique, de faire beaucoup de place à ceux qui veulent les abattre. Et c'est vrai que pas de liberté pour les ennemis de liberté, c'est pas de la liberté, c'est pas un slogan démocratique, c'est un slogan totalitaire. La démocratie laisse, sous certaines réserves, dans certaines limites, et avec certaines insatisfactions, la possibilité à ceux qui la contestent de s'exprimer. Et ça, c'est un élément de faiblesse, c'est vrai pour la démocratie, tout à fait. En plus, elle est respectueuse d'un certain nombre de procédures.
Pardon. C'est la définition de la démocratie.
Oui, bien sûr, c'est au cœur de la démocratie, c'est pour ça que ce n'est pas une critique que je lui adresse, c'est un constat que je dresse. Et en plus, la démocratie, c'est aussi l'état de droit. Donc c'est le respect d'un certain nombre de procédures, de règles, de libertés fondamentales. La démocratie, c'est quand même ça, au fond des fonds. C'est la liberté de l'individu. Et donc, d'une certaine manière, ça l'affaiblit. Mais l'expérience historique a montré que, sur la durée, les régimes totalitaires ne résistent pas. Et que, voilà, ce qui s'est passé le 11 novembre 1989, de part et d'autre du mur de Berlin, a montré que, sur la durée, finalement, la démocratie et la liberté l'emportaient sur les régimes totalitaires et sur les régimes de contrainte. Et ça, je crois que c'est une leçon qui reste vraie pour l'avenir. Ça demande une bonne dose d'optimisme, mais c'est un optimisme que je ressens profondément. On est, confronté très exactement au problème que vous soulevez aujourd'hui. Quelles sont les armes que les démocraties peuvent se donner face au terrorisme ? Jusqu'où peut-on aller, précisément, dans la lutte contre le terrorisme ? C'est une question qui commence à troubler aujourd'hui l'opinion publique américaine, très attachée aux libertés individuelles et à la démocratie. Et en même temps, les contrôles de police, le fichage des gens, etc. Jusqu'où la défense de la liberté justifie-t-elle une atteinte aux libertés individuelles ? Ça, c'est une question à la fois philosophique et en même temps très pratique et très concrète, qui nous ramène à ce que je disais. Esprit de modération et d'équilibre. Il faut trouver le bon point d'équilibre. Si je vous disais que les hommes politiques n'accordent aucune importance aux sondages, vous ne me croiriez pas. Je dirais même que beaucoup leur accordent une importance tout à fait excessive. Et décider que pour gouverner, il faut tous les matins ouvrir son journal et essayer de voir quelle est l'idée ou la décision qui recueille le plus grand nombre de voix dans les sondages, ça c'est une technique qui me paraît extraordinairement dangereuse. Parce que d'abord les sondages, scientifiquement et techniquement, sont à prendre avec des pincettes. Tout dépend, bien évidemment, de la façon dont est posée la question. Leur évolution dans le temps est extrêmement rapide, ça monte, ça descend, ça va, ça vient. Et ce sont très souvent des réactions épidermiques qui ne comportent pas l'élément de réflexion et de distance par rapport à l'événement qui est nécessaire. Donc le sondage d'opinion est à l'évidence quelque chose qui est utile et dont un responsable politique ne doit pas faire abstraction, mais se caler sur les sondages pour gouverner, c'est tout simplement de la démagogie. Si gouverner, ça consiste à rechercher systématiquement ce qui est le plus agréable au peuple dans l'instant T, c'est de la démagogie. Et il faut que, de temps en temps, les hommes d'État sachent faire la part des choses, prendre de la distance, prendre du recul et s'interroger aussi sur l'intérêt général tel qu'ils le ressentent, plutôt que l'addition d'intérêts particuliers exprimés dans les sondages. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire aujourd'hui. Et puis il y a d'autres moyens de sentir l'opinion aussi. Il y a une idée que je conteste fondamentalement et en vain, depuis 20 ans, c'est que les hommes politiques sont coupés des réalités. Ça, c'est une des idées qui... Alors, demandez dans un sondage, est-ce que les hommes politiques sont proches des Français ou est-ce qu'ils sont... Vous verrez, là, c'est 70%, ils ne sont pas proches, ils sont coupés des réalités. Ce n'est pas vrai. Le député lambda, il vit comme le Français lambda. Il a son métier, son domicile, etc. Et surtout, il est en permanence au contact des autres. Je soutiens qu'il y a peu de professionnels, entre guillemets, qui soient autant au contact d'autrui que les hommes politiques. En permanence, nous sommes interpellés par des gens qui nous posent des questions très concrètes, de logement, d'emploi, d'école, etc. Et donc ça aussi, ça compte beaucoup. Et je le vois, moi, quand j'arrive le mardi au groupe, à l'Assemblée nationale, au groupe dans lequel j'appartiens, la remontée des députés, qui se font immédiatement l'écho de ce qu'ils ont entendu. Et pour un gouvernement, c'est très précieux, cette fonction représentative des parlementaires qui sont sur le terrain et qui font le relais avec les gouvernants. C'est aussi un élément de mesure qui mérite d'être pris en compte peut-être autant que les sondages d'opinion. Bon, je partage totalement votre diagnostic. Sur l'abstention, je l'ai dit moi-même, c'est un signe de maladie de la démocratie. Et c'est vrai qu'en additionnant tous les phénomènes que vous évoquez, nuls, etc., on arrive parfois à des pouvoirs démocratiquement élus avec 25% ou 30% et encore du corps électoral. Alors vous dites à partir de quel moment est-ce qu'on n'est plus en démocratie? Je ne vais pas vous donner un pourcentage parce que ce serait trop risqué. De même, votre diagnostic selon lequel dans les exercices de démocratie participative, il est plus facile de dire contre quoi on est que ce pourquoi on est, c'est évident. On le voit d'ailleurs dans de multiples mécanismes. On le voit par exemple dans les enquêtes d'utilité publique. Quand on fait un projet de route, un projet de quartier nouveau, un projet de ZAC, la loi prévoit qu'on ouvre un registre et que dans ce registre, tout un chacun peut venir écrire ce qu'il pense, ses objections, etc. Ne viennent que ceux qui contestent le projet. Parce que les autres. C'est ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Et on est confronté à ce problème un petit peu partout. Dans les universités, je le disais tout à l'heure, la majorité des étudiants est silencieuse sur le plan démocratique. Et ça biaise évidemment le débat politique, parce que à ce moment-là, dans les assemblées représentatives, ceux qui s'expriment ne représentent pas la réalité des choses. Je suis un peu, excusez-moi d'aller sur un terrain d'actualité très, très brûlant, mais je me demande si on n'est pas un peu confronté à la même chose en ce moment en ce qui concerne le voile islamique, par exemple. C'est assez curieux parce que quand je rencontre des jeunes issus de l'immigration, je ne les sélectionne pas, j'ai quand même le sentiment qu'une très grande majorité d'entre eux sont plutôt d'esprit laïque et ont plutôt peur que, notamment les femmes, qu'on leur impose le port du voile. Or, qu'est-ce qu'on entend officiellement? Uniquement ceux qui considèrent qu'on stigmatise l'islam et qu'on les empêche de. Donc voilà ce phénomène-là. Je ne vais pas en rajouter parce que je ne fais que répéter ce que vous avez dit. Comment faire? Alors vous me dites, est-ce que ça ne veut pas dire que la démocratie est morte? Non, je ne veux pas le croire parce que. Alors ça voulait me dire que c'est un peu la méthode Coué. Je ne sais pas quoi lui substituer. Et si j'étais obligé de dresser le constat de décès de la démocratie, alors je serais dans un état de déliquescence intellectuelle et morale avancée pour un homme politique. C'est évidemment la fin de tout. Donc la seule réponse, c'est comment motiver? Comment réintéresser? Comment rouvrir un débat public ou pas public, enfin, qui réintéresse les Français à la vie politique. Parce que, comme toujours, nos concitoyens là-dessus sont ambigus. On dit qu'ils ne s'intéressent pas, mais à certains moments, ils se passionnent. Même sur les débats à la télévision, on nous dit qu'il n'y a plus de débat politique à la télévision parce que ça ne fait pas d'audience. Ce n'est pas toujours vrai. Il y a des moments où tout d'un coup on retrouve des millions de personnes qui assistent à un débat. Donc c'est à nous aussi, responsables politiques, au sens large du terme, que nous soyons élus, responsables de parti, ou de façon générale que nous ayons une fonction d'autorité, d'arriver à recréer des débats et des conditions de débat qui intéressent les gens et qui les passionnent. Et on va voir là un rendez-vous électoral, pardon, Monsieur le Président, vous m'arrêterez si je franchis la limite que vous avez fixée tout à l'heure, qui n'est pas celui des élections cantonales et régionales, je vous rassure, mais qui est celui des élections européennes. Comment intéresser les Français à l'Europe? Parce que là, l'opinion publique française est extraordinairement ambivalente. Globalement, l'idée européenne est plutôt sympathique. On comprend bien que à 15 ou même à 25, c'est plus fort, c'est plus efficace, c'est sur certains nombre de sujets que tout seul. Mais en même temps, comme on nous raconte matin, midi et soir que l'Europe est responsable de toutes les catastrophes qui nous tombent sur la tête, il y a un sentiment anti-européen très profond, et ce sont les anti-européens qui s'expriment. Alors, ne parlons pas du foie gras. On vient d'apprendre il y a quelque temps que nous allions nous interdire de gaver les oies. Donc, révolution. La chasse, etc. Donc, on a l'impression que chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est la faute à l'Europe. Et moi qui m'intéresse à la préparation de la future campagne européenne, ce que j'ai demandé aux gens qui m'aident là-dedans, c'est précisément d'essayer de trouver les 10 ou 15 exemples qui montrent aux Françaises et aux Français ce que concrètement l'Europe apporte de bien dans leur vie quotidienne. Montrer aux étudiants que s'ils peuvent aller passer 6 mois dans une université italienne ou allemande, c'est grâce à l'Europe. Montrer aux Bordelais que si on a pu faire le palais des congrès tout neuf, c'est grâce à l'Europe qui nous a apporté de l'argent. Rappeler à nos paysans que s'ils n'ont pas complètement disparu de la surface de l'espace rural français, c'est grâce à la politique agricole commune. Et ainsi de suite. Donc, je me répète, c'est vrai que tous ces dangers sur la démocratie, ils existent, et c'est à nous d'essayer de la revivifier, de la rendre à nouveau intéressante en organisant un vrai débat.
C'est peut-être une sorte de confiance, je dirais, dans l'ensemble des dirigeants, il n'y a pas de grande différence de la société.
C'est une vision optimiste, et je crois qu'elle comporte une part de vérité. Juste un petit exemple, excusez-moi, qui me concerne, mais aux dernières élections municipales. Pardon, ça vous apparaîtra peut-être immodeste, ici à Bordeaux, mais il n'y avait pas d'enjeu. Tous les gens que je rencontrais me disaient, vous allez être élu. Et je connais un très grand nombre de gens qui ne sont pas allés voter à cause de ça. Et donc, il y a eu 50% d'abstention. Alors, est-ce que c'est un signe de
désintérêt? Vous avez été élu.
Oui, j'ai été quand même élu sur ceux qui ont voté, oui, bien sûr, heureusement. Et parce que même ceux qui étaient contre moi se sont dit, c'est pas la peine d'y aller, puisqu'il va être réélu. Donc, ça s'est équilibré des deux côtés. Et donc, effectivement, quand on est très optimiste, on peut se dire, après tout, c'est un signe aussi de confiance. Et de... Je crois qu'il ne faut pas pousser quand même ce raisonnement trop loin, parce qu'on risque de se réveiller, alors, avec ce moment-là, avec des prises de pouvoir de minorité, purement et simplement. Et c'est ça le risque, dans cette abstention de la majorité silencieuse. On m'a souvent posé cette question et j'ai jamais su me déterminer là-dessus, vous voyez. En général, j'essaye de... Bon, mais là, je ne sais pas trop. Est-ce que vraiment l'obligation sanctionnée par une amende, c'est la bonne pédagogie en démocratie? J'en suis pas sûr. Et puis ensuite, quand on fait des lois, il faut les faire respecter. On va vraiment recouvrer une amende sur 50% des Français s'ils vont pas voter, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, je suis partagé.
Je suis en prison.
Donc, Montesquieu a écrit « Quand il n'est pas nécessaire de faire une loi, il est nécessaire de ne pas en faire. Ouais. Faisons des lois applicables. » Si on commençait par faire appliquer les lois qui existent, ce serait merveilleux.
Il faut qu'elles soient justes aussi.
Il faut qu'elles soient justes. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a un député européen ici qui je pourrais céder la parole pour qu'il s'explique. On a essayé de faire quelque chose, mais je ne suis pas sûr honnêtement que ce soit une réponse extraordinairement performante. On s'est dit que les députés européens, et Luc Martin ne verra pas là-dessus une pierre dans le jardin des députés européens, avaient un lien avec les électeurs français assez lâche, assez distendu. Parce qu'à partir du moment où ils sont élus sur une liste nationale, le lendemain de l'élection, ils n'ont plus de mandants. Enfin, les mandants, c'est tout le peuple français, c'est-à-dire personne, en réalité. Et donc, l'idée, ça a été de décider des circonscriptions dans lesquelles il puisse y avoir un lien plus étroit entre l'élu européen et les électeurs. Et donc, vous allez voter la prochaine fois, le 13 juin prochain, dans de grandes circonscriptions, 8 circonscriptions, qui sont réputés créer plus de proximité. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que vous savez qu'ici, la circonscription, ça va être Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Et on va avoir quoi, une dizaine de candidats, 10 candidats, qui vont se partager cet immense territoire. C'est un petit progrès par rapport à tout ça. Mais vous avez tout à fait raison. L'enjeu, c'est de faire de l'Europe, et je suis presque là en train de vous dévoiler le slogan que j'aimerais retenir pour ma prochaine campagne européenne, une Europe populaire. Une Europe populaire. Aujourd'hui, c'est une Europe technocratique et bureaucratique. On ne comprend pas ce qui se passe. On fait porter sur les fonctionnaires bruxellois ou sur les commissaires bruxellois des responsabilités qui ne sont pas les leurs. On oublie de dire que lorsqu'il y a une directive européenne qui est proposée par la Commission et ensuite adoptée, c'est parce qu'il y a une majorité de gouvernement et parfois une unanimité de gouvernement, quand on vote à l'unanimité, qu'ils l'ont bien voulu. Mais ça n'arrange pas les gouvernements de le dire. Et donc on laisse prospérer l'idée que c'est un processus qui échappe à tout contrôle démocratique. Alors la réponse, c'est ça. Rapprocher les élus européens de leurs électeurs, renforcer les pouvoirs du Parlement européen. Et ça va être fait. Jusqu'à présent, le Parlement européen, jusqu'à il y a quelques années, a été très largement une assemblée consultative. Il est en train de devenir un vrai Parlement avec des pouvoirs budgétaires. Et à partir du moment où il aura ses pouvoirs, peut-être que ça va davantage intéresser les gens à cette démocratie européenne. Et puis surtout, montrer que l'Europe, ça nous touche dans notre vie quotidienne. C'est ça l'essentiel.
Et le niveau global de l'éducation du peuple.
Il y a un point sur lequel je vous rejoins. En gros, parce qu'on pourrait faire quelques exceptions, mais en gros, plus le niveau d'éducation s'élève et plus les valeurs démocratiques montent dans un pays. En gros...
C'est pas très bas quand même.
Non, justement, mais le niveau démocratique est haut et le niveau d'éducation est haut.
Non. Tout à l'heure non. Que la participation en France était...
Non, mais la participation est faible. C'est vrai, mais quand même, la réalité démocratique de la société française, quand vous regardez ce qui se passe à travers le monde, la France est une démocratie authentique, avec des insuffisances, avec cette montée de l'abstentionnisme, etc. Mais globalement, c'est une démocratie. C'est-à-dire que, finalement, le peuple choisit ses dirigeants, et puis les grandes orientations politiques qui sont prises par les dirigeants correspondent à peu près à ce que souhaite le peuple. Je dis qu'il y a quelques exceptions, parce qu'il y a des régimes totalitaires qui ont fait un gros effort d'éducation. À Cuba, il y a un bon niveau d'éducation et on a un régime totalitaire. Voilà. Donc, mais c'est une exception, c'est vrai. Et puis, c'est peut-être une. Oui, mais pour moi, ça sort du champ de la démocratie. C'est une alliance de mots contre nature. Alors, je suis bien d'accord avec vous. Il faut poursuivre dans cette direction et il faut, c'est vrai. Bon, c'est une tarte à la crème que de le dire, développer l'instruction civique à l'école et enseigner un certain nombre de principes républicains fondamentaux. Mais vous savez, les gens qui n'ont pas vécu la privation de liberté mesurent moins bien le goût de la liberté que ceux qui ont connu l'inverse. C'est clair, ça n'y changera rien. Donc, c'est comme ça. Mais je voudrais aussi dire que les élus, ils sont soumis à un régime de responsabilité qui est... à peu près sans exemple, enfin, dans beaucoup d'autres catégories professionnelles. Je me plains pas, je me plains absolument pas. Mais je veux dire quand même que nous, tous les 5 ans quand on est député, tous les 6 ans quand on est maire, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Bah oui, les jours où les électeurs vous disent c'est terminé, on veut plus de vous. Et bon, je veux pas jouer dans le misérabilisme, mais il y a parfois des gens pour qui ça s'arrête dans tous les sens du terme, y compris matériellement. Et il n'y a pas d'indemnité de licenciement. Bon. Mais c'est comme ça, c'est un choix qui a été fait. Donc, le sens de la responsabilité, il existe et il est réel. Et d'ailleurs, c'est la sanction de la démocratie, ça me paraît tout à fait normal.
La démagogie, la démocratie, c'est quand même un fil de rasoir, hein, quand même, hein, presque.
Oui, mais vous avez tout à fait raison. Mais en même temps, moi, je ne veux pas non plus pousser mon raisonnement trop loin, parce que quand je dis chercher ce qui plaît au peuple, c'est de la démagogie, je ne veux pas non plus vous laisser croire que pour moi, gouverner, c'est chercher systématiquement ce qui déplaît aux Français. Hein. J'ai pu parfois donner cette impression, mais ça n'était pas volontaire. Donc là aussi, il y a des moments où, la responsabilité du politique, c'est de dire des choses qui ne sont pas forcément dans le sens du qui ne sont pas forcément dans le sens de ce que les gens attendent, mais parce qu'ils pensent que c'est une vérité, parce qu'ils pensent que c'est l'intérêt général à moyen terme de son pays. C'est ça aussi la fonction du politique. Il faut avoir le courage de l'assumer de temps en temps.
On voit en détail des exemples. On a l'impression, vous savez, ce que vous avez évoqué, le sentiment de...
Sans entrer trop dans le détail, on a là, dans cette commission, des gens qui ont qui ont un épiderme extrêmement sensible, parce que la décision n'est pas prise. La décision n'est pas prise. Et je serais même tenté de dire qu'il est absolument extraordinaire qu'on reproche au gouvernement d'avoir dit « j'ai l'intention de faire un grand contournement de Bordeaux ». Parce que si le gouvernement n'avait pas l'intention de faire un grand contournement de Bordeaux, il n'y a pas lieu de faire une commission sur le grand contournement de Bordeaux. Le gouvernement dit « j'ai l'intention de faire un grand contournement » et je nomme une commission pour qu'elle me dise « si c'est bien, et surtout comment ? Est-ce qu'on passe à l'ouest ? Est-ce qu'on passe à l'est ? Est-ce que c'est une autoroute ? Est-ce que c'est une rocade ? Comment ? Et aucune de ces questions n'est tranchée. Et quand ces messieurs, pour qui j'ai le plus grand respect, claquent la porte en disant « on méprise », ils ont tort. Ce n'est pas vrai. Ils sont d'une susceptibilité excessive. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce que pense le président de la commission qui poursuit son travail et qui va remettre son rapport. Donc, je sors de cet exemple ponctuel, mais vous avez raison de le prendre. Parce que, effectivement, et là, je vous rejoins, si le pouvoir politique lui-même fixe des règles qu'il ne respecte pas, alors, évidemment, il perd sa crédibilité et sa légitimité vis-à-vis du citoyen. Mais enfin, on va pouvoir dire que dans la généralité des cas, nous essayons de nous astreindre à respecter les procédures. Et d'ailleurs, il y a toute une série d'éléments de contrôle qui nous astreignent à respecter les procédures. Lorsque nous nous en éloignons, je peux vous dire que la sanction du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel, pour ne pas dire des tribunaux pénaux le cas échéant, est extrêmement forte. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, ce que ressentent les élus, c'est l'extraordinaire paralysie dans laquelle ils se trouvent. Ça n'est pas le fait qu'ils s'affranchissent des règles et que donc ils méprisent les procédures, c'est qu'au contraire, leur sentiment d'impuissance est nourri par cette difficulté à prendre des décisions. Parce que la législation est tellement complexe, les procédures sont tellement multiformes, que vous oubliez toujours une virgule, la consultation d'un organisme consultatif, etc., etc. Et que quand vous avez face à vous des gens très procéduriers qui vous traînent systématiquement dans les tribunaux administratifs, une fois sur 3, une fois sur 4, parfois une fois sur 2, vous vous faites annuler pour un problème de forme et vous perdez 6 mois dans le processus de décision. Alors ça aussi, ça fait partie de la réflexion sur l'état de droit. Jusqu'où pousser le formalisme, jusqu'où pousser la judiciarisation de la société française, jusqu'où pousser le principe de précaution ? On n'est pas très éloigné d'une situation dans laquelle on ne pourra plus rien faire parce que toute décision sera contestée ou devra être remise sur le métier 25 fois. Donc vous voyez que là aussi, c'est pas si simple. Oh, moi, je suis un pur produit de la méritocratie républicaine, donc je suis très attaché à la notion de mérite, parce que si elle n'avait pas existé, je ne serais pas là. Enfin, et je crois que c'est un fantastique élément de promotion sociale, en panne, malheureusement, aujourd'hui, parce que ça s'est plutôt dégradé par rapport à la période que j'ai pu connaître il y a 20 ou 30 ans. Oui. Donc, oui, je crois qu'il y a là une espèce de va-et-vient bien connu et sur lequel on peut disserter à perte de vue entre liberté et égalité. J'en parlais à midi, vous voyez, on va essayer de relier ça à un débat d'actualité pour sortir des généralités. Le débat sur l'école. Je parlais ce matin avec les chefs d'établissement, je vous l'ai dit, des lycées et des collèges. Et on est quand même tombé d'accord sur un point qui va peut-être vous choquer. Puis je le dis quand même, ils me l'ont dit. Est-ce qu'on peut vraiment améliorer notre système éducatif dès lors que ceux qui, dans ce système, se décarcassent pour faire leur métier avec passion, conscience professionnelle et efficacité, sont traités à peu près de la même manière que les tirs au flanc? C'est une grande question, ça. Alors, ceux qui font leur travail consciencieusement sont l'énorme majorité, je m'empresse de le dire, et les tirs au flanc, une toute petite minorité. Mais là aussi, comment réintroduire dans le système de la responsabilité, de l'évaluation, de la mesure de résultat, de la récompense.
Il n'y a pas un projet de loi là-dessus ?
Non, il n'existe pas encore. Il n'existe pas. Pourquoi cette idée qu'il faut se faire évaluer ? Nous sommes évalués, je l'ai dit tout à l'heure, les hommes politiques. Pourquoi cette idée qu'il faut se faire évaluer est tellement insupportable à la très grande majorité des enseignants ?
Eh oui.
Deux participations en deux catégories complètement différentes.
C'est pas facile de découper la réalité en tranches, hein, et de dire ça c'est les principes, et puis ensuite lorsqu'on passe aux modalités, il y a une séparation entre les deux, parce que malheureusement le diable est dans les détails, et dans les détails techniques. Cela dit, votre idée rejoint en réalité un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé par exemple pour les retraites ? Il y a une partie qui est, que vous appelez un peu, affective, que j'appellerais plus politique, qui a été le grand débat public, qui a tourné autour d'arguments très très simples. On est de moins en moins à cotiser et on est de plus en plus nombreux à toucher des retraites. Est-ce que ça peut durer ? Est-ce que le système ne va pas, un jour ou l'autre, complètement s'asphyxier ? Ça a été ça la prise de conscience. Attendez, ça a été ça la prise de conscience des Français. Deuxième prise de conscience, et ça a été très douloureux, et ça a été un accouchement très 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 long, qui est de dire à partir du moment où il y a une catégorie de la population en France qui sont les salariés du secteur privé qui cotisent 40 ans, est-ce qu'on peut continuer à considérer que ceux du secteur public vont cotiser 37 ans et demi ? Voilà, ça a été le débat politique. On l'a tranché. Ensuite, il a fallu passer à toutes sortes de considérations beaucoup plus précises. Et là, alors, je trouve qu'on rentre dans un débat plus institutionnel qui est le rôle du débat syndical. Et c'est là qu'on s'est retrouvé avec les syndicats qui ont discuté de choses extrêmement précises. Et ça pose alors un autre problème. On a parlé tout à l'heure de l'abstentionnisme et de sa lecture, soit plus ou moins optimiste, soit plus ou moins pessimiste. Il y a aussi le problème de la faiblesse de la syndicalisation en France. Comment avoir ce type de débat et ce type de concertation sur le plan technique avec des gens qui représentent ceux qui travaillent, alors que le taux de syndicalisation est de 10% ou de 15% dans beaucoup de secteurs, 10%, oui, dans beaucoup de secteurs de la vie professionnelle française. Et donc, le défi qui est lancé aux partis politiques sur l'abstentionnisme, il est aussi des lancés aux organisations syndicales sur leur taux de pénétration dans le corps professionnel, dans les corps professionnels.
Est-ce que la professionnalisation du personnel politique ne va pas à l'encontre de la démocratie ?
Alors là, c'est une question sur laquelle, en revanche, j'ai une idée bien précise. Si je n'ai pas sur le vote obligatoire, je trouve que ce procès qui consiste à dire la politique n'est pas un métier, la politique n'est pas une profession et la professionnalisation de la vie politique est un danger pour la démocratie est vraiment une erreur d'analyse considérable. On ne fait pas de la politique en dilettante. On ne s'improvise pas homme politique pendant 3-4 ans, fait un petit tour et puis on repart faire autre chose. Non. Je crois que la politique, ça implique un apprentissage, une expérience, des connaissances de la vie démocratique, de la relation à l'autre, la création aussi d'un réseau de relations qui demande du temps. On ne s'improvise pas candidat à l'élection présidentielle du jour au lendemain. Coluche en a fait, hélas, l'expérience en d'autres temps. Je crois que d'une manière ou d'une autre, il faut avoir une certaine distance dans la vie politique pour le faire bien. Alors on nous dit, mais aux États-Unis, par exemple, il y a une limitation des mandats présidentiels. Reagan n'est pas apparu sur la scène politique en sortant des studios de Hollywood, contrairement à ce qu'a écrit Le Monde pendant des mois. Il a été gouverneur d'un État qui est dans le PIB est supérieur à celui de la France, ou égal, peut-être une bêtise, enfin, ou de même nature. Donc là aussi, il y a une carrière politique, il y a un apprentissage politique. Et voilà, alors de là à ne jamais décrocher, à continuer à être candidat jusqu'à l'article de la mort, il y a sans doute des nuances à apporter. Enfin, c'est vrai que c'est une tendance un peu des hommes politiques. On disait d'un député qui s'accrochait particulièrement à son mandat, il mourra à l'Assemblée nationale et ensuite il ira au Sénat. Donc,
je ne critique pas le fait qu'effectivement, pour faire de la politique, il faut une formation. Mais est-ce que, quand même, fondamentalement...
Oui, mais le peuple délègue à quelqu'un. Alors, bien sûr, à ce moment-là, c'est de la démocratie directe. Comment voulez-vous pratiquer la démocratie directe dans un pays de 60 millions d'habitants? Par ailleurs, on est forcément de plus en plus poussé, au contraire, à une certaine professionnalisation. Parce qu'il y a eu toute une période où, effectivement, on conciliait une activité politique avec une activité professionnelle. La profession libérale continue à faire ça un petit peu. On est médecin, et on est député, etc. On se rend compte aujourd'hui que, par exemple, être maire d'une ville relativement importante, ça devient un full-time job. Hein. Vous allez me dire, ben vous êtes en plus député. Oui, mais parce que je travaille 2 fois 35 heures par semaine, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Donc je crois qu'il y a vraiment un investissement qui est tel que... Et je crois que la réponse à votre question, c'est rendre compte. C'est rendre compte, c'est la sanction, c'est le contact avec les gens, c'est ne pas s'enfermer dans sa tour d'ivoire, c'est vrai. C'est ça le risque, devenir un professionnel coupé des réalités. Et ce risque, il est combattu par la réélection, par la sanction, et sans doute par la démocratie participative qui confronte les hommes politiques avec leurs concitoyens, avec leur opposition. Ce qui est vrai, ça vous... C'est peut-être un petit peu en filigrane derrière votre question aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, la physionomie des représentants du peuple n'est pas tout à fait à l'image du peuple lui-même. C'est vrai qu'il y a une surreprésentation, par exemple, de la haute fonction publique dans le personnel politique ou des professions libérales, qui n'est pas à l'image du peuple lui-même. Alors, comment faire? Certains considèrent qu'il faut empêcher les hauts fonctionnaires de continuer à faire de la politique, ou en tout cas de rester hauts fonctionnaires quand ils sont hommes politiques, pourquoi pas? Je suis pas sûr que c'est ça qui fera venir des salariés du secteur privé dans la vie politique. Il faut peut-être au contraire à eux aussi leur proposer un filet de sécurité pour qu'ils puissent s'engager. Donc,
vu le niveau que ça réclame, autant de sportifs politiques, c'est impossible de faire aux amateurs.
Juste un mot sur la laïcité. D'abord, la laïcité, ça n'est pas une guerre contre les religions. Et ça, je crois que la France doit l'expliquer, y compris à ses partenaires en dehors de l'Europe. Parce que le mot laïcité n'existe pas dans beaucoup de langues autour de nous. En italien, je ne sais pas comment on dit, laïque, c'est anti-religieux. En anglais, on dit séculaire, je crois.
Les
États-Unis n'ont pas compris. La laïcité, pour nous, c'est le respect de toutes les religions. Et c'est la neutralité de ceux qui sont investis d'une autorité publique par rapport au phénomène religieux. Mais ce n'est pas du tout l'ignorance du phénomène religieux ou le combat contre le phénomène religieux. Et ça, c'est une nuance difficile à porter. La fraternité, ben, c'est le lien entre tout ça. Hein. Liberté, égalité, s'il n'y a pas le lien de la fraternité, ça ne marche pas. C'est le lien social, c'est ce que j'appelais tout à l'heure le respect mutuel et le partage. Moi, je suis. On me demande souvent de me définir en politique. Est-ce que vous êtes libéral? Est-ce que vous êtes interventionniste? Bon, on sait que je ne suis pas socialiste. Bon. Non, je ne crois pas. Je persiste et je signe. Non, je ne suis pas socialiste parce que je crois quand même fondamentalement que ce qui fait marcher les choses, le monde, la société, la vie, etc., c'est le ressort de l'initiative individuelle. C'est la personne, c'est la responsabilité, c'est l'investissement de chacun. Cela dit, ce moteur qui est absolument indispensable pour créer de la richesse, il se grippe si cette richesse n'est pas justement et équitablement partagée. Et la fraternité, c'est ça. C'est partagé, une fois qu'on a créé, une fois qu'on a donné la prospérité, la croissance, etc., rechercher des mécanismes qui permettent de partager les fruits de cette croissance, sans tomber dans des mécanismes qui gèlent la liberté et l'initiative. C'est ça tout le problème. Comment éviter de passer de l'égalité à l'égalitarisme? Comment éviter de passer de la solidarité à l'assistance? Comment éviter de créer des mécanismes qui dissuadent de travailler? Parce que l'homme est ce qu'il est, et quand on est dans une situation où finalement on a un revenu chiche, modeste, pauvre, mais on a un revenu à peu près équivalent si on ne travaille pas que si on travaille, pourquoi voulez-vous qu'on travaille? Et donc là aussi, où trouver le juste point d'équilibre pour que la fraternité ne conduise pas à la passivité? Bon, c'est un débat qu'on pourra avoir dans les prochaines années et pendant un certain nombre de décennies, vraisemblablement.